Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, à 3 mois de la présidentielle, ne laissez aucun incendie prospérer. Contre la hausse de l'électricité, le gouvernement sort 16 milliards de plus. L'État renonce quasiment à une taxe et demande un gros effort à EDF. Le coût de la vie, sujet de campagne, l'inflation à nouveau proche des 3% en décembre. Autre foyer d'incendie, la grève dans les écoles, collèges et lycées hier. Réponse dès hier soir, 8000 renforts promis, des millions de masques FFP2 et chirurgicaux. Et cet aveu de Jean-Michel Blanquer.
Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. Je crois que c'est le propre de l'être humain et cela m'arrive évidemment. Et je n'ai aucun problème à dire que je suis désolé de certaines choses.
Nous tirerons les conséquences politiques de cette affaire. Pour EDF, la fin de semaine est difficile. Autre source de perte, 20% du parc nucléaire à l'arrêt pour maintenance. Ce sera prolongé pour 5 réacteurs. Problème de soudure, l'action dégringolait ce matin à la bourse. Le grand n'importe quoi au pays du grand chelem, Djokovic, jouera-t-il ou non l'Open d'Australie ? Les décisions contradictoires se sont succédées ce matin. Nous essaierons d'y voir clair dans un instant avec Grégory Pless à Sydney. Dans l'actualité encore, est-ce la Russie ? Une cyberattaque a touché ce matin l'Ukraine. Peut-on déjà alléger les mesures anti-Covid ? Le débat est vif en Espagne. Hier en France, le nombre de personnes en soins intensifs a légèrement reculé. Et puis nous vous parlerons des cellules iPS et des avancées qu'elles permettent dans la thérapie cellulaire. À 13h30, quoi de neuf ? Molière, pour les 400 ans de sa naissance. Discussion avec deux actrices de la comédie française, la doyenne de la troupe Claude Mathieu et la petite dernière Sephora Pondy. J'attends vos appels pour dialoguer avec les deux. 01 45 24 7000. Le feuilleton dernier moment avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et dans C'est une chanson, nous écouterons du Cabrel. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Il y a 4 mois, il était proche du paradis, à un match du Grand Chelem, le sommet du tennis. Eh bien aujourd'hui, il n'est pas loin de l'enfer, une carrière qui pourrait être compromise. Novak Djokovic pourra-t-il, oui ou non, disputer l'Open d'Australie qui commence dans 3 jours ? Lui qui est entré dans le pays sans vaccin et avec, à minima, des erreurs dans les formulaires administratifs. Première décision ce matin, enfin, le gouvernement australien annulait son visa. Bonjour Grégory Pless.
Bonjour Bruno.
En direct de Sydney où il est 23h03, vous veillez tard. Et il faut être en direct parce que la situation évolue minute par minute. La bataille juridique fait rage depuis ce matin, Grégory.
Oui, effectivement. Enfin, en fait, ça a plutôt commencé en fin d'après-midi quand le ministre de l'Immigration a annoncé donc qu'il avait enfin pris sa décision et qu'il annulait une deuxième fois le visa de Novak Djokovic. Novak Djokovic qui, au moment où on se parle, est toujours libre. Et par ailleurs, il a également reçu l'assurance qu'il n'allait pas être expulsé, en tout cas pas tant que le recours que ses avocats ont déposé dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'annulation de son visa sera complètement examiné. Et ça aussi, ça va très vite. Ça a déjà commencé dès ce soir. Le juge a ouvert une audience à quasiment 21h. Pour l'instant, il était surtout question de procédure. On va rentrer sur le fond plutôt demain. Et normalement, on devrait connaître l'issue de ce recours dimanche matin, donc samedi, dans le courant de la nuit chez vous, à Paris. En tout cas, ce qui est clair depuis maintenant 8 jours, c'est que le gouvernement australien n'a absolument pas envie de voir le numéro 1 mondial à Melbourne, en tout cas pas tant qu'il sera pas vacciné. Le ministre de l'Immigration, tout à l'heure, quand il a annoncé l'annulation du visa, il a expliqué qu'il l'avait fait au nom de l'intérêt public. Et pour Scott Morrison, le Premier ministre, il s'agissait de protéger les résultats des sacrifices accomplis par les Australiens depuis le début de la crise sanitaire.
Voilà.
Donc ça s'annonce quand même moyen pour Novak Djokovic ici.
Grégory Pless en direct de Sydney, 23h, fin de soirée pour vous, mi-journée pour nous. Et donc ce tournoi qui commence lundi matin, on verra si Djokovic peut y participer ou pas. Ça se jouera donc dans le week-end. L'actualité des sports, c'est aussi un nouveau mort sur le Dakar, le décès d'un mécanicien français dans un accident de la route. C'est ce qu'annonce l'organisation de la course en cette mi-journée. Moins 16% pour l'action EDF à la Bourse de Paris en ce moment même. Moins 20% au début de séance. La fin de semaine est compliquée pour l'électricien. Un problème de corrosion sur un système de sécurité, réacteur de Penly. 10 réacteurs sur 56 à l'arrêt, on y revient dans un instant. L'autre nouvelle, c'est qu'EDF va devoir faire un gros effort. au nom de la lutte contre la vie chère. Rappelez-vous, le gouvernement a promis de limiter la hausse du prix de l'électricité à 4% le 1er février, mais l'augmentation est de 35% sur les marchés. Alors comment faire? Eh bien la promesse sera tenue quand même, annonce ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, et c'est un effort de 16 milliards d'euros en tout. 8 pour l'État, qui réduit à presque rien une des principales taxes sur l'électricité, et 8 pour EDF, à qui l'État demande de vendre plus d'électricité à bas prix cette année à ses concurrents. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Cela se répercute immédiatement sur la facture. Pour y voir clair, prenons la position du consommateur. Alors d'abord, petit 1, je suis client EDF, est-ce que tout va plutôt bien pour moi, Delphine?
Oui, c'est le cas de la grande majorité. 2/3 sont abonnés au TRV, les tarifs bleus d'EDF. Sur leur facture le 1er février, l'augmentation des prix ne dépassera pas les 4% au lieu de 35% si l'on tient compte des marchés.
Si je suis client d'un autre fournisseur type Engie, Total Energy ou Eni, est-ce que tout va plutôt bien aussi?
Alors là, deux cas de figure. Soit vous avez souscrit une offre indexée sur les tarifs réglementés d'EDF, auquel cas vous êtes protégé contre la flambée des prix. C'est plus compliqué. Si vous avez souscrit une offre à prix libre, là, c'est au bon vouloir de votre fournisseur. Il n'y a aucune garantie juridique qu'il répercutera automatiquement la mesure. Le gouvernement dit qu'il veillera en cas de besoin. Le conseil, c'est de revenir au tarif d'EDF. Fournisseur en dernier recours, c'est facile et c'est gratuit.
Petit 3, que se passe-t-il si j'ai une offre à tarif fixe?
Là, c'est la bonne affaire, car bon, si vous avez signé votre contrat avant l'envolée des prix, non seulement votre électricité est bon marché, mais en plus, vous n'aurez pas à payer la TIFCE, cette taxe sur l'électricité que le gouvernement vient d'abaisser quasiment à zéro.
Hausse de 4% donc seulement, alors que c'est 35 sur les marchés. Est-ce qu'il y aura un rattrapage et quand?
Alors, pas de rattrapage l'an prochain pour l'électricité, promet Bercy, mais à la fin, c'est quand même le contribuable qui va payer, vu le manque à gagner des taxes sur l'électricité. Perdant aussi les actionnaires d'EDF, ce matin, les marchés sanctionnent durement le cours de bourse de l'électricien, vous l'avez dit, moins 20% en début de séance. La ministre de l'écologie, Barbara Pompili, promet déjà que l'État sera aux côtés d'EDF pour l'aider à passer ce moment difficile.
Et on reparle des autres difficultés d'EDF dans un instant. D'abord, n'allez pas croire que dans le contexte de campagne électorale que l'on connaît, Marine Le Pen allait applaudir le geste du gouvernement contre la hausse de l'électricité. Pas de compensation, dit-on. Elle n'y croit pas.
Que ce soit par l'intermédiaire d'EDF à qui on demande de mettre la main à la pâte de 8 milliards, enfin quand on est actionnaire à 84%, inutile de vous dire que c'est évidemment Bercy qui finira par compenser. Donc on va avoir donc la double peine pour les Français, c'est-à-dire qu'ils vont par leurs impôts en fait payer pour maîtriser cette hausse d'électricité, et puis à un moment donné, eh bien, il y aura une compensation qui se fera. Ça s'appelle le lissage, c'est un très joli nom pour un très méchant dispositif qui consiste à faire payer aux Français en réalité cette augmentation, mais qu'on lisse dans le temps. Donc double peine, ils l'auront payé par l'impôt et ils le paieront demain sur leur facture.
Propos recueillis par Élodie Forêt, 8 milliards donc de manque à gagner pour EDF, et en plus, une partie du parc nucléaire est à l'arrêt, un peu moins de 20% des réacteurs pour maintenance ou autre. Et le sort de 5 d'entre eux attire l'attention. Leur arrêt est prolongé et ils ont des défauts du même type, problème de corrosion sur un système de sécurité. Ça avait été repéré à Civaux dans la Vienne, puis à Chaux dans les Ardennes. Maintenant, Penly, en Seine-Maritime, qui est pourtant de conception différente. Alors que se passe-t-il exactement? Réponse de Karine Hervieux, c'est la directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
EDF met en évidence des défauts qui sont de l'ordre millimétrique. Il s'agit de petites fissures au niveau de systèmes d'injection de sécurité dans la centrale. Ce sont des systèmes qui sont utilisés en cas d'accident pour refroidir le cœur.
Quel est l'éventuel impact sur la sûreté nucléaire?
Si ces défauts évoluent, on peut avoir des fissures et des fuites au niveau du circuit primaire, donc le circuit de refroidissement de la centrale. On peut donc avoir une fuite d'eau faiblement radioactive à l'intérieur de l'enceinte de confinement.
Est-ce que ces défauts pourraient concerner d'autres réacteurs?
EDF, pour l'instant, il mène des investigations pour comprendre l'origine de ce phénomène et l'ampleur du phénomène, quels sont les endroits de la centrale qui peuvent être touchés. Et en fonction de ça, il va définir une stratégie de contrôle des autres réacteurs, hein, qu'il soumettra à l'autorité de sûreté nucléaire.
Est-ce qu'il va falloir arrêter d'autres réacteurs pour des contrôles dans les semaines qui viennent ?
C'est trop tôt pour le dire.
En propos recueillis par Sandy Dauphin, y aura-t-il des tensions sur l'approvisionnement en électricité cet hiver ? Le gestionnaire du réseau RTE a relevé son niveau de vigilance fin décembre. Jamais, disait-il à l'époque, la disponibilité du parc nucléaire français n'a été aussi basse à cette période de l'année. L'affaire des 5 réacteurs et des problèmes de corrosion ne change rien à ce constat. Cela ne l'arrange pas, ça ne l'aggrave pas non plus, fait savoir RTE ce matin. Si 16 milliards de plus sont mis à contribution pour limiter la hausse du prix de l'électricité, c'est que la question du pouvoir d'achat, à moins de 3 mois de la présidentielle, est de plus en plus centrale. L'inflation est à nouveau à 2,8% en décembre, 1,6% sur l'année. Le prix des vêtements, des chaussures, des gros appareils ménagers, des jouets augmente, et aussi celui de l'alimentation. Légumes frais, produits frais, plus 3,5%, le pain et les céréales aussi, plus 1,7%. C'est dans ce contexte que le groupe Leclerc, on en a parlé hier, affiche une promotion impressionnante, la baguette de pain à 29 centimes d'euros pendant 4 mois dans ses magasins. Coup de com' pour se faire bien voir de ses clients. Est-ce réussi ? Pas si sûr. Les clients sont partagés et on ne parle pas de la filière du pain. Illustration tout près de Laval, Evan Le Bastard, France Bleu Mayenne.
Même devant le Leclerc de Saint-Berthevin, ça fait débat.
Qui casse les prix des baguettes ? Pour moi, c'est très bien.
Pourvu que ça dure aussi, voilà. Parce que, mais malheureusement, tout explose, donc les prix partout, donc voilà.
C'est vrai qu'à 29 centimes, oui, les céréaliers vont pas gagner leur vie.
Pour vous, c'est pas normal.
Ah bah c'est pas normal, non, c'est aberrant, quoi.
Et des céréaliers mayennais, effectivement, pour certains, en colère de voir l'enseigne vendre des baguettes à ce prix. C'est le cas d'Olivier Duhamel. Il est installé à la Chapelle Rincefoin.
On a pu voir depuis 6 mois le blé augmenter. Et lui, il nous fait une provocation à 29 centimes pour faire rentrer les gens dans son magasin. C'est vraiment pour dire, je fais ce que je veux.
Depuis mai 2020, son blé sert à faire une baguette 100% mayonnaise, la Mayennette. Thierry Pellueux est un minotier, lui aussi, impliqué dans ce projet.
Oui, c'est une concurrence déloyale, quoi, en fait.
Quand la grande surface vante à 29 centimes, la Mayennette est en moyenne à 1,10€.
Toute la filière est bien rémunérée, entre guillemets, et mieux rémunérée en passant par les agriculteurs et tout au long de la fabrication de chez le meunier et puis chez le boulanger. Quoi. En fait, c'est pour que tout le monde gagne sa vie à ce prix-là. Donc, si elle était vendue 29 centimes, je pense que les agriculteurs ne vendraient pas leur blé non plus. Quoi, en fait.
Une baguette locale 4 fois plus chère, donc, mais de leur avis, bien meilleure.
Le pouvoir d'achat et l'épargne encore. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, annonce à l'instant le passage du taux du livret A à 1% au 1er février prochain. Il était scotché à 0,5% depuis le 1er février 2020. Et à 86 jours de la présidentielle, on ne laisse pas non plus prospérer la colère des enseignants. Après la forte mobilisation d'hier dans la journée, dès le soir, les syndicats étaient reçus au ministère en présence du Premier ministre et du ministre de la Santé. Une série d'annonces conséquentes leur a été faite, on y revient dans un instant, du fond donc, mais aussi de la forme. Écoute, bienveillance, c'est ce qui est affiché, et même acte de contrition de Jean-Michel Blanquer.
Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, je crois que c'est le propre de l'être humain, et cela m'arrive évidemment, et je n'ai aucun problème à dire que je suis désolé de certaines choses. Mais c'est important aussi de peut-être pas être dans des logiques de cristallisation excessive sur une personne, quand on connaît le processus de décision. Vous avez, encore une fois, il y a eu le vendredi soir le Conseil de la Santé publique, on a travaillé tout le 1er janvier collectivement entre les ministères. C'est un travail précis, extrêmement sérieux, rigoureux. Dans cette situation de crise sanitaire, nous sommes obligés parfois d'être extrêmement réactifs, d'aller vite, d'annoncer des choses peu de temps avant qu'elles s'appliquent. Et hier, c'était extrêmement intéressant d'entendre le ministre des Solidarités et de la Santé bien expliciter ce processus. Et c'est vrai que l'immédiateté médiatique ne permet pas toujours de tout expliquer comme il le faudrait.
Et le ministre... Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, chez nos confrères de France Info. On revient sur l'aspect politique de cette affaire dans un instant. D'abord, les annonces. Des masques, 5 millions de FFP2 pour les enseignants de maternelle en premier lieu. 2 masques chirurgicaux par jour pour chaque enseignant de l'Éducation nationale. Les premiers arriveront en tout début de semaine prochaine, assure le ministre. Des masques et des bras. 8000 personnes en tout, surveillants, vacataires administratifs, médiateurs anti-Covid et enseignants. Nouveaux postes réellement, et quand ces 8000 personnes seront-elles en poste, Laurent Kramer ?
Alors, il s'agit pour moitié d'enseignants contractuels qui viendront donc en renfort dans les écoles pour assurer les remplacements dans le premier degré jusqu'à l'été. Ce recrutement de 3300 postes en CDD commencera dès la semaine prochaine, assure le ministère. Voilà pour ce qui concerne les enseignants. Il ne sera pas facile, de recruter en dernière minute minutes, s'inquiètent pourtant les syndicats, notamment dans les grandes villes. Le salaire d'un contractuel, 1390 euros net. L'autre moitié de ces recrutements en CDD concerne les collèges et les lycées. Il s'agit donc de surveillants, personnel administratif, médiateurs Covid, pour faire appliquer le protocole sanitaire. Là encore, il faudra plusieurs semaines pour faire monter le dispositif, soulignent les syndicats, et les viviers pour ces recrutements sont en tension tout au long de l'année. Les 5 millions de masques FFP2 arriveront, eux, dès la semaine prochaine, promet le ministère.
Alors, réunion des syndicats d'enseignants ce soir, ils semblaient satisfaits hier soir à l'issue de la réunion au ministère de l'Éducation. À quoi faut-il s'attendre?
Alors, s'ils sont heureux d'avoir remporté en quelque sorte ce bras de fer, ils ne sont pas pour autant naïfs. Nous voulons juger sur pièce. On voudrait par exemple un comité de suivi sur ces annonces, notamment celles qui restent encore floues, celles des recrutements et des embauches sur liste complémentaire évoquée par Jean-Michel Blanquer. Il s'agit d'étudiants qui n'ont pas été admis au concours mais qui restent sur liste d'attente et qui donc pourraient rejoindre définitivement l'éducation nationale. Le ministère sur ce point ne s'engage pas clairement sur ces embauches en dur. Tout cela reste donc à négocier, souligne la FSU. Nous ne signons donc pas de chèque en blanc. Combien de postes de fonctionnaires seraient créés? Du côté du ministère, on reste volontairement flou à ce stade sur cette partie du dossier.
En tout cas, c'est une semaine compliquée qui se termine pour le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. On ne compte plus les papiers dans la presse sur le thème « L'ex-chouchou de la Macronie est en disgrâce ». Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Simon, hier soir, du point de vue de l'exécutif, il fallait à la fois éteindre l'incendie enseignant et aider le ministre à passer ce cap.
Oui, en réalité, Bruno, l'un ne va pas sans l'autre. Car même si Emmanuel Macron avait eu l'intention, il ne pourrait pas se séparer de son ministre. À moins de 3 mois de la présidentielle, ça reviendrait à désavouer sa propre gestion de la crise sanitaire à l'école. Quand un ministre est affaibli, c'est tout l'écosystème qui est affaibli, résume un fidèle du président. Jean-Michel Blanquer a donc été prié de faire acte de contrition, d'où ses excuses inédites ce matin, d'où aussi le soutien officiel affiché par le gouvernement malgré les tensions réelles qui existe avec certains de ses collègues. En demandant à son ministre de l'Éducation de calmer le jeu, c'est en fait sa future candidature qu'Emmanuel Macron cherche à préserver. Lui qui entend bien faire de l'école un thème phare de son programme avec une réforme choc déjà expérimentée à Marseille. Donner aux directeurs d'établissement la possibilité de choisir leurs enseignants et de construire leur propre projet pédagogique. L'école du futur à la sauce Macron risque fort de ne pas plaire aux syndicats. Alors au-delà de la menace de grève à répétition qui toucherait la vie quotidienne de dizaines de millions d'électeurs, le président n'a pas du tout intérêt à braquer aujourd'hui le monde enseignant.
Simon Le Baron en direct de l'Assemblée nationale pour France Inter. Et à gauche, Christiane Taubira sera-t-elle, oui ou non, candidate à la présidentielle dans le cadre de la primaire populaire notamment? Elle doit en dire plus demain, déplacement à Lyon. Tout cela se déroule, faut-il le rappeler, dans un contexte de pandémie. Plus de 300 000 nouvelles contaminations annoncées hier. La vague Omicron déferle toujours, mais elle n'emporte pas l'hôpital. Un peu plus de 24 000 personnes hospitalisées, près de 4 000 en soins critiques. Mais le chiffre était en baisse, légère baisse hier soir, s'agissant des soins critiques. Omicron plus contagieux mais moins dangereux. Semaine après semaine, le constat se confirme, au point d'envisager, avec toute la prudence du monde, de vivre avec. En Espagne, le chef du gouvernement a prononcé ces mots en début de semaine. Nous sommes sur la bonne voie pour ne plus considérer le coronavirus comme une pandémie, mais une maladie endémique. Et depuis, Marie-Hélène Ballestero, le débat fait rage en Espagne sur l'allègement des mesures.
C'est un changement de stratégie que propose le gouvernement espagnol, une nouvelle manière d'évaluer et de surveiller l'évolution de cette maladie. Comme l'a souligné mardi dernier la ministre de la Santé, Carolina Darias, il ne s'agit pas d'un changement immédiat, mais qui pourrait voir le jour après la fin de la 6e vague qui touche actuellement le pays. Concrètement, il s'agirait de développer un système de surveillance qui serait basé, comme pour la grippe saisonnière, sur un réseau d'hôpitaux et de médecins sentinelles chargés d'alerter sur sa propagation. Au lieu de comptabiliser tous les cas de Covid, de tester au moindre symptôme et d'isoler les cas, l'objectif serait de constituer un échantillon statistiquement significatif qui serait extrapolable sur l'ensemble du pays et qui permettrait de comprendre la propagation de la maladie. Mais les avis sont partagés, même chez les médecins. La Société espagnole de médecins de famille et communautaire soutient pleinement ce changement de stratégie, tandis que les deux autres organisations ont appelé à la prudence. D'après eux, il est encore trop tôt pour banaliser le Covid et le rétrograder au rang des maladies endémiques. Un débat qui divise aussi les Espagnols et que souhaite promouvoir le gouvernement de Pedro
Pedro Sanchez auprès des partenaires européens. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson peut-il se sortir des révélations à répétition sur des fêtes à Downing Street ? Ce matin, les services du Premier ministre présentent leurs excuses auprès de la reine Elisabeth II après la révélation de fêtes pendant les funérailles de l'époux Philippe en plein confinement le jour de ses funérailles, la fête à Downing Street. Un jeune migrant est mort aujourd'hui après une tentative de traversée de la Manche. Il était avec une trentaine de personnes. Ils ont été secourus au large de Berck. Il était âgé d'une vingtaine d'années et probablement de nationalité soudanaise. La décision qui met en émoi les très nombreuses boutiques de vente de produits dérivés du CBD en France. Cette décision va-t-elle être annulée ? Le CBD, molécule non psychotrope issue du cannabis. Le 31 décembre, le gouvernement interdisait à la vente les feuilles et les fleurs de CBD. Le Conseil d'État a été saisi. L'audience avait lieu ce matin. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Bruno.
Devant le Conseil d'État pour France Inter avec Romain Luquien. Cette audience a pris un tour politique. Un candidat à la présidentielle a fait le déplacement, Mathilde.
Oui, Yannick Jadot est venu soutenir les professionnels devant les grilles du Conseil d'État ce matin. Les enjeux sont effectivement importants pour tous ceux qui se sont lancés dans la vente de fleurs de cannabidiol. 1800 boutiques en 2021, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, disent les avocats des professionnels à l'audience. Il y a donc pour eux urgence à suspendre cet arrêté, car le temps que le Conseil d'État se prononce sur le fond, ils seront nombreux à mettre la clé sous la porte ou à risquer des poursuites pénales, disent-ils. Au cœur des débats, la question de savoir si ces tisanes et autres produits à base de CBD sont des stupéfiants. Oui, maintiennent les représentants du ministère de la Santé selon une vieille classification de 1961. Non, si l'on s'appuie sur les effets produits par le CBD, contrairement au cannabis, insiste Julien Bayou, avocat et également secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Le CBD, c'est pas un stupéfiant, c'est un produit bien-être, on va dire. Il y a des personnes qui l'utilisent pour dormir, c'est mon cas. Il y a des personnes qui l'utilisent pour soulager des douleurs. Et puis il y a des personnes qui l'utilisent pour passer du cannabis, qui là pour le coup est un psychotrope, un stupéfiant, qui est mauvais pour la santé, et bien au CBD, produit relax, produit bien-être. Et donc le fait d'annuler la filière, de la mettre par terre, de casser les 20 000 emplois que ça représente, est vraiment une folie, même dans une perspective de réduction des risques à l'égard des drogues et des stupéfiants.
Avec cet arrêté, d'un jour à l'autre, les commerçants sont devenus des trafiquants, soulignent les avocats. Pas du tout, répondent les représentants du ministère de la Santé. La situation est inchangée, l'interdiction est implicite et les professionnels en ont juste profité. L'audience est toujours en cours.
Mathilde Dehimy en direct du Conseil d'État avec Florent Layani pour les moyens techniques de France Inter. L'actualité juridique, c'est aussi après plusieurs semaines d'arrêt. Ce rendez-vous que nous retrouvons, comme chaque vendredi, désormais, arrêt sur audience. Les principaux détails à retenir et les coulisses de la semaine au procès du 13 novembre. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
En direct du Palais de Justice de l'île de la Cité avec Éric Audra. Trois semaines d'arrêt parce qu'il y avait les vacances et puis ensuite Salah Abdeslam était positif au Covid. La peur d'un cluster en pleine vague d'Omicron, elle demeure dans la salle d'audience, hein, Sophie.
Oui, tout à fait. On sent l'inquiétude palpable, notamment de la part du président de la Cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès, qui veut à tout prix éviter un cluster à cette audience. Il l'a répété plusieurs fois et il y a un indice depuis quelques jours qui montre que ce niveau d'inquiétude a grimpé. On a vu les magistrats de la Cour porter désormais un masque FFP2 au-dessus de leur robe rouge à col d'hermine. Vous savez, le masque est réputé plus protecteur, alors que les avocats généraux du parquet national antiterroriste continuent à porter des masques chirurgicaux. On a vu sur les bancs des parties civiles des avocats qui portaient des masques blancs avec des cœurs rouges. En tout cas, le masque n'est plus baissé alors que Salah Abdeslam, vous le savez, a contracté le Covid fin décembre. Il est guéri et le procès a donc repris après quelques jours de suspension.
Voilà pour les masques. Alors, deux interrogatoires d'accusés cette semaine. D'abord celui de Mohamed Abrini, jugé notamment pour avoir accompagné le commando djihadiste en région parisienne la veille des attentats. C'est un ami d'enfance de Salah Abdeslam. C'est l'homme au chapeau sur les images de vidéosurveillance à l'aéroport de Bruxelles au moment des attentats de mars 2016. Abrini, deux jours d'interrogatoire, Sophie, deux visages différents.
Exactement. Alors, jour 1, on a vu Mohamed Abrini dans son box avec une chemise blanche à petits carreaux noirs. Il a assumé complètement avoir prêté allégeance à l'État islamique. Il a dit que le djihad faisait partie de l'islam, que lui-même s'était rendu en Syrie pour aller voir la dépouille de son petit frère mort dans les rangs de Daesh. Il a dit qu'il était fier de son petit frère. Il a expliqué que les attentats en France étaient une réponse au bombardement en Syrie. Un discours totalement clair et assumé de Mohamed Abrini au premier jour, presque revendicatif, et puis au jour 2, eh bien dans son pull bleu lavande, changement de ton, en fait, il est devenu quasiment amnésique, ne répondant plus aux questions, disant en tout cas je ne sais plus, je ne me souviens pas, et on avait du mal en vrai à savoir si ça l'embêtait de répondre sur des détails, si peut-être il avait été rabroué aussi par ses avocats, ou bien si sa mémoire flanchait réellement. En tout cas, il a eu cette phrase assez forte, disant « de toute façon, je vais prendre perpétuité, pourquoi je vous mentirais ?»
Alors le deuxième accusé interrogé cette semaine, Sophie, c'est Oussama Krayem. Et l'audience, en ce qui le concerne, peut se résumer à cette question « humain ou inhumain ?»
Oui, alors Oussama Krayem, il faut que je vous dise que c'est un accusé suédois qui est considéré comme l'un des plus gradés de l'État islamique parmi les accusés présents à ce procès. Je vous donne un exemple. Oussama Krayem a assisté à l'exécution barbare du pilote jordanien brûlé vif dans une cage en Syrie. Dans son box, il est revenu refusant de répondre aux questions de la cour. Oussama Krayem, qui est quelqu'un de très déterminé. Et puis, on a vu arriver à la barre son professeur de français en détention. Un homme qu'il a vu 175 fois durant 4 ans entre 2017 et 2021 et qui a expliqué que Krayem était d'humeur constante. Il a même eu cette phrase, si on fait abstraction des choses horribles qu'il a commises, eh bien Krayem a beaucoup d'humanité. Alors cette phrase a fait bondir sur les bancs des parties civiles, même si certaines victimes semblaient d'accord. Vous savez qu'à ce procès, il y a beaucoup de victimes qui veulent opposer la justice à la barbarie, mais Krayem, lui, dans son box, est resté muet, estimant que ce procès était une illusion et qu'il n'allait plus répondre aux questions de la Cour.
Sophie Parmentier en direct de l'ancien palais de justice de l'île de la Cité avec Éric Audra. Procès à suivre à la radio sur franceinter.fr et les réseaux sociaux de France Inter aussi. Et puis votre compte Twitter, Sophie, à vous et Charlotte Piret, l'autre envoyée spéciale de France Inter à ce procès du 13 novembre. Parlons à présent d'une nouvelle avancée dans la thérapie cellulaire. Une technique encore au stade de la recherche clinique, mais dont les progrès laissent espérer une nouvelle façon de guérir dans quelques années. Il s'agit de transplanter chez des malades des cellules dites IPS, des cellules adultes qu'on a reprogrammées pour en faire des cellules souches capables de réparer un organe. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Après des essais sur des patients en train de perdre la vue, atteints de cardiopathie chronique, un nouvel essai clinique démarre. Sur la moelle épinière, on le doit à une équipe japonaise qui excelle en la matière.
Oui, car c'est un Japonais qui a inventé cette technique des IPS. Cela a valu à Shinya Yamanaka le Nobel de médecine en 2012. Le principe consiste donc à prendre une cellule adulte, de la peau par exemple, à la modifier génétiquement pour la transformer en cellule souche. Cette cellule souche est ensuite capable de se multiplier en n'importe quel autre genre cellulaire. C'est un peu comme si on faisait un reset de votre cellule pour lui demander ensuite de changer son programme pour devenir une cellule de foie, de cœur ou un neurone. Ces cellules IPS ont d'abord été testées, vous l'avez dit, sur la rétine, précisément sur la dégénérescence maculaire de la rétine. Ces essais cliniques aux États-Unis et au Japon n'ont pas encore débouché sur un traitement de routine, mais à terme, de très nombreuses maladies peuvent prétendre à la thérapie cellulaire, y compris le cancer. Dans la transplantation japonaise dont on parle aujourd'hui, 2 millions de cellules reprogrammées en cellules neurales ont été injectées à une personne dont la moelle épinière était lésée. Plus qu'une efficacité thérapeutique, c'est la tolérance de la greffe que l'équipe médicale veut vérifier. Si tout se passe bien, d'autres malades seront traités au printemps. En France aussi, des chercheurs travaillent sur cette technique. La stratégie vise à constituer d'abord une banque de cellules IPS, banque qui permettrait d'offrir à un panel plus large de malades des cellules IPS compatibles avec leur organisme.
Merci Sophie Becherel. Une dernière information avant la météo que me donne Laetitia Gaillet, qui suit très près le secteur de la bande dessinée. Le Festival international de la BD d'Angoulême aura lieu du 17 au 20 mars. Il devait avoir lieu fin janvier, il avait été reporté en raison de la pandémie. Le temps dans un instant.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
France Inter aime
Le Tartuffe ou l'Hypocrite, par la Comédie Française en direct au cinéma. Célébrez les 400 ans de Molière. Ivo Vanov vous entraîne à la découverte de la version originelle, censurée en 1664 par le roi au lendemain de la première. Une représentation suivie de l'hommage à Molière par la troupe de la Comédie Française. Le Tartuffe ou l'Hypocrite de la Comédie Française. Une soirée exceptionnelle en direct au cinéma demain à 20h10. Un événement France Inter.
Et le Tartuffe et Molière, on en parle dans une toute petite minute. Appelez-nous pour nous dire quel est votre Molière. 01 45 24 7000. D'abord le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Eh bien, c'est une belle journée d'hiver.
Eh oui, avec beaucoup de soleil. Alors, quelques grisailles résistent par endroits vers la plaine d'Alsace, vers le Val-de-Saône, du côté de la frontière belge également, et surtout du sud de la Bretagne jusqu'à l'Orléanais. Les températures, elles sont proches des moyennes de saison, un peu plus froides quand même sous la grisaille résiduelle. 3 degrés attendus à Tours ou à Orléans, 4 à Lille, à Nantes, à Strasbourg, à Dijon ou à Lyon, 7 à Paris, 9 degrés à Cherbourg et à Toulouse, jusqu'à 15 degrés à Nice ou à Bastia. Demain, il faudra à nouveau composer avec nuages bas et brouillard, parfois givrants, plus nombreux sur les régions du nord. Mais c'est bien le soleil qui reviendra l'après-midi avec un peu plus de nuages quand même sur la Bretagne, le Cotentin et la Vendée. Et toujours beaucoup de gelée le matin.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Il y a en France 492 rues qui portent le nom de Molière. 63 impasses, 10 squares, 6 boulevards, 34 écoles. Et 14 collèges. Ces chiffres, on les trouve dans un atlas Molière publié en ce début d'année. C'est un des nombreux livres, podcasts et autres dossiers dans la presse parus alors que demain marquera le 400e anniversaire de la naissance de l'auteur du Bourgeois Gentilhomme, du Malade Imaginaire et de l'École des Femmes. Molière en chiffres, Molière en mots. Ce classique parmi les classiques continue de foudroyer à la première écoute. Par exemple, ces deux vers attrapés au tout début de Tartuffe. Mais vous êtes un sot en trois lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. On ne cite pas Tartuffe au hasard. On peut encore, en 2022, comme le dit l'administrateur de la Comédie Française, Éric Ruff, présenter une création mondiale d'une pièce de Molière, 400 ans plus tard. Le Tartuffe, proposé jusqu'en avril à la Comédie, n'est pas celui que nous avons lu au lycée, mais une version réinventée, oserait-on dire, grâce au travail d'un des meilleurs connaisseurs du dramaturge, l'universitaire Georges Forestier. Alors jusqu'à 13h45, nous vous proposons de passer un moment avec Molière. Quel est votre Molière? Dites-nous au standard 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter pour dialoguer avec vous. Deux habitantes de sa maison, cette Comédie Française qui nous propose une programmation spéciale jusqu'à l'été. Bonjour Claude Mathieu.
Bonjour.
Doyenne de la troupe, vous êtes Madame Pernelle dans ce Tartuffe nouvelle version. C'est à partir de demain, salle Richelieu. Et ce sera en direct dans une série de salles de cinéma pour marquer le lancement de cette année Molière. Et bonjour Séphora Pondy.
Bonjour.
La dernière arrivée pensionnaire depuis septembre dernier. Vous jouerez de votre côté dans Les Précieuses Ridicules au Vieux Colombier à partir du mois de mars. Je vous pose la même question qu'aux auditeurs. Votre Molière à toutes les deux. Claude Mathieu, votre Molière.
Alors mon Molière maintenant, moi, c'est l'homme de troupe.
Oui.
Sans doute parce que je suis à Comédie Française et qu'on a une troupe. Mais c'est tout son parcours d'homme de théâtre, parce que ses écrits, on les connaît, je les ai joués. Voilà, c'est partagé avec le monde entier, son œuvre est sublime. Et ce qui me touche maintenant, c'est l'homme de troupe. C'est comment il a débuté, comment il a créé une première société. Puis ça n'a pas marché à Paris, il est parti en province. Et il a fait tout ce qu'on a fait nous, ou avant de rentrer aux Français. Parce qu'on a tous plus ou moins fait partie d'un collectif ou d'une troupe. Et voilà le Molière qui me plaît dans sa vie du quotidien avec ses acteurs.
Homme de troupe et qui avait le sens du public, disait Éric Ruff dans une interview au Monde hier, qui savait proposer ce que voulait le public aussi.
Bien sûr, regardez là, vous parlez de cette version du Tartuffe, c'est quand même la première version qu'il avait faite. Elle a été recréée, mais elle a existé et elle a été censurée. Et après, il n'a fait que travailler pour arriver à quand même faire passer ce texte. Et donc, il a rajouté des scènes avec les amoureux, avec sa fille, avec Dorine. Et voilà, c'est passé.
Séphora Pondy, votre Molière à vous?
Alors, mon Molière à moi, c'est un Molière d'adolescente.
Oui.
Parce que c'est comme ça que je l'ai découvert, lycéenne, quand je prenais des cours de théâtre en seconde. Donc, pour moi, c'est vraiment un rapport à la jeunesse, à la mémoire, à mes débuts de théâtre. Enfin, j'ai un parcours qui est encore assez mince, je suis très jeune. Mais c'est vraiment dans ce cadre-là que je l'ai découvert.
Et qu'est-ce que vous y avez trouvé quand vous l'avez découvert?
Le plaisir de la joute.
de la joute.
Le plaisir de la joute, le rythme, l'humour, l'insolence aussi. C'était vraiment une langue qui mettait en jeu. Je me rendais bien compte que chez mes camarades et moi, il y avait un appétit pour cette langue-là parce que c'était, ça nous semblait très moderne, très inventif, très rythmé. Il y avait vraiment
la pulsation,
une énergie, ouais.
Ouais.
Oui, c'était vraiment de cet ordre-là. Ouais.
Même lycéenne, ça vous parlait, Molière ?
Ouais, plutôt, ouais. Peut-être parce que c'était abordé d'une façon qui n'était pas écrasante.
Oui.
Que tout était, que les scènes entre jeunes gens, notamment, ça nous paraissait très contemporain. Il n'y avait pas encore de distance parce qu'il n'y avait peut-être pas tout le monumental qu'il y a derrière cet auteur-là. Je pense qu'on l'abordait de façon finalement assez innocente.
Allez, je voudrais qu'on entame le dialogue avec les auditeurs et auditrices de France Inter. Bonjour Laurence.
Bonjour monsieur. Alors, merci
de nous appeler. J'ai sur ma petite fiche Molière, c'est le Coluche des années 80.
Bien sûr, Molière est intemporel. En fait, si vous le plaquez à n'importe quelle époque, même aujourd'hui, surtout avec la conjoncture, je pense que si moi j'aime toutes les pièces de Molière parce qu'en fait, non seulement elles sont intemporelles, mais en plus elles sont à la fois elles décrivent des sociétés qui, rappelons-le quand même, ça se passait en France. Hein, il était bouffon du roi, c'est lui qui était engagé pour critiquer à la fois la cour, à la fois la société. Et en fait, c'est ce que je disais à votre interlocutrice au téléphone, c'est que, en fait, si vous enlevez toutes les cloisons de tous les domaines, à la fois scientifiques, culturels, enfin, vous voyez tous ces experts qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, eh ben vous vous rendez compte qu'en fait c'est si on plaque sur l'époque d'aujourd'hui, c'est aussi parlant qu'à son époque à lui, c'est-à-dire que les problèmes n'étaient pas les mêmes. Enfin si, les problèmes étaient les mêmes, mais il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, je pense, hein, ce qui fait qu'il est intemporel, c'est à la fois le profit,
oui.
C'est-à-dire que là aujourd'hui, tout est argent, c'est-à-dire que là maintenant.
Et le deuxième paramètre, ce serait quoi?
Excusez-moi, je suis
bon. En tout cas, il vous parle toujours et il vous semble, ce qui est dit dans les pièces de Molière vous semble toujours aussi actuel. C'est ça, oui. Que vous nous dites. C'est fort abondi. Alors, on parlait de Coluche là au début de l'intervention de Laurence. J'ai vu dans une interview que vous faites un parallèle Molière Blanche Gardin.
Oui. C'est ce qui me venait spontanément par rapport à un certain rapport à la cruauté dans l'humour, quand même, au cynisme, quelque chose qui pourrait être assez même dérangeant, je dirais. C'est la première personne qui m'est venue spontanément et j'ai vu qu'un autre camarade de la Comédie Française l'avait aussi évoqué, sans qu'on en ait parlé auparavant. Mais oui, il y a quelque chose par rapport au mordant, à la cruauté qui me rappelle cette femme-là.
Claude Mathieu, demain, après la représentation de Tartuffe, il y aura le traditionnel hommage à Molière. Ça se passe tous les ans, le jour anniversaire de sa naissance. Racontez-nous, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Comment ça se passe?
Eh bien, il y a d'abord la représentation, ce sera Tartuffe.
Ouais.
Et pendant cette représentation, tous les acteurs, c'est le seul jour où tous les acteurs de la troupe sont présents. Donc la maison est remplie, toutes les loges sont remplies, tout le monde passe chez le coiffeur, au maquillage, ils ont choisi leur costume et ils ont choisi leur phrase de Molière. Donc la maison est en effervescence, c'est très émouvant et très festif. Là, on sera un petit peu moins parce qu'il y a les masques, parce qu'on n'a pas le droit de faire un pot, de tout ça. Là, ça va être très rigoureux. Mais à la fin de la représentation, on se réunit, on est sur le plateau, sur la musique de Lully en général, et on vient rendre hommage à Molière. Il y a le buste de Molière qui est posé juste au début du plateau, et c'est comme ça qu'on donne toutes nos phrases de Molière, et ensuite. Le doyen ou la doyenne présente les nouveaux sociétaires, les nouveaux pensionnaires, et voilà.
Et du coup, votre voisine de gauche, qui n'a pas encore vécu un hommage à Molière, vous attendez ce moment, c'est fort abondi ?
Oui, je suis un tout petit peu impressionné, quoi. Ouais. Ça c'est sûr.
Comment est-on, Claude Mathieu, à la veille d'une grande représentation comme celle de demain qui est attendue? Est-ce que vous êtes impatiente? Est-ce que vous êtes angoissée? Comment les heures là qui nous séparent du Tartuffe, comment vous allez les vivre?
C'est un peu particulier parce que comme c'est filmé,
oui.
On a fait une répétition hier avec les caméras. Et du coup, on a déjà eu des spectateurs, il y avait environ 400 personnes dans la salle, donc on a été tout d'un coup projeté déjà, oui, en représentation. Donc on a fait déjà nos armes hier, oui. C'était un petit peu tendu au départ, en plus on venait d'apprendre que Denis Podalydès allait jouer masqué. Et du coup, ce soir, on a la couturière qui est normalement avec du public, de la maison, des amis. Alors je sais pas, tout d'un coup, il y a une espèce de calme qui est venu, contrairement à d'habitude.
Et il est agréable ce calme ou presque il vous inquiète?
Oui, hein, non, il est agréable parce que le spectacle commence très fort. Et on a besoin de ça.
Quelle différence y a-t-il entre le Tartuffe que l'on connaît, Tartuffe ou l'imposteur, et celui que vous allez présenter demain, Tartuffe ou l'hypocrite?
Ce Tartuffe est en trois actes,
ouais,
et
au lieu
complètement
de cinq,
concentré sur les personnages de Tartuffe, Elmire, Orgon, le fils d'Amis, Dorine et la mère et la grand-mère. Et c'est vraiment un huis clos, c'est presque un huis clos. Alors que dans la version que nous connaissons, Molière avait apporté une vie avec les jeunes, avec le dépit amoureux, avec qui faisait un petit peu exploser ce côté règlement de compte familial.
Et l'ironie, c'est qu'il me semble que Tartuffe est une des toutes premières pièces que vous avez jouées lorsque vous êtes arrivé à la Comédie Française.
Ouais, ouais.
Alain, au Standard, bonjour Alain. Est-ce que vous êtes au Standard, Alain? Alors Maïté, bonjour Maïté.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors Molière, pour moi, c'est la comédie humaine dans toutes les époques.
Oui.
L'homme avec ses qualités, ses travers. J'étais prof au collège, j'animais des ateliers théâtre, nous allions au Printemps théâtral à La Roche-sur-Yon, à Noirmoutier. Et je regrette que désormais, on balance trop souvent aux élèves, en sixième le médecin malgré lui, en cinquième le malade imaginaire et dans les autres classes, sans aucune préparation, ce qui les dégoûte vraiment de l'œuvre, alors qu'il est si facile de trouver de bonnes vidéos ou de faire une bonne lecture auparavant pour les mettre en appétit.
Est-ce que vous intervenez l'une ou l'autre dans des collèges, dans des lycées, ou est-ce que vous avez de mauvais souvenirs? Alors c'est fort appondi, vous nous disiez plutôt pas de Molière au collège et au lycée.
Parce que j'ai commencé à faire du théâtre.
Ouais.
Mais si j'avais abordé Molière en classe de français, peut-être que ça m'aurait semblé plus soporifique, plus difficile à appréhender. Or là, ce qui faisait son charme, c'était justement que c'était quelque chose qui nous mettait en jeu,
qui était collectif.
Oui, aussi.
Alain nous dit Molière doit être joué en costume d'époque. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est obligatoire? L'une et l'autre. Je vois deux noms dans vos deux têtes faire non, c'est fort appondi.
Ah, il me semble pas. Je crois pas, non.
J'ai lu en préparant cet entretien que vous disiez « J'ai toujours eu une préférence pour les rôles de femmes tragiques, denses, longtemps pour être heureux sur scène, fallait que j'ai tout le poids du monde sur les épaules. » Mais ça change, dites-vous, j'espère, parce que les précieuses ridicules, c'est pas franchement ça.
Je compte me jeter au sol.
Bon. Vous avez plaisir à jouer cette pièce, j'imagine.
Oui, vraiment, vraiment. Je me suis calmé avec les tragédies.
Bon, parfait. Un jour, peut-être, dites-vous, Éric Ruff, l'une d'elles sera la doyenne de cette maison. À propos de vous et à propos de l'autre jeune femme qui est entrée récemment à la Comédie Française, est-ce que vous vous projetez comme ça sur la longue histoire de la maison de Molière, c'est fort appondi?
Étrangement, ça pouvait être une projection qui avait lieu avant d'entrer. Enfin, mon entrée est encore très récente, mais aujourd'hui j'appréhende ça plutôt au jour le jour. Enfin, au jour le jour. Je ne sais pas si la projection va aussi loin.
Ouais.
Mais qui sait?
Au jour le jour. Est-ce que la façon de jouer Molière a beaucoup évolué? Claude Mathieu, on disait qu'une des premières pièces que vous aviez jouées à la Comédie, c'était Tartuffe, que vous retrouvez demain.
Oui, c'était Tartuffe dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon.
Oui.
Et là, je faisais Marianne,
oui,
la fille d'Orgon. Déjà, Jean-Paul Roussillon a porté quelque chose de très nouveau à Comédie Française en montant les pièces de Molière d'une façon beaucoup plus noire. Et déjà, avec les rapports familiaux difficiles où les enfants se défendaient Et donc, bien sûr, ce qui bouge là, par exemple, c'est maintenant, c'est l'apport des nouvelles technologies aussi, et des ambiances qui peuvent être mises. Au niveau du jeu, non, pas vraiment.
Et finalement, la noirceur, vous la retrouvez dans cette nouvelle version d'Ivo Vandov. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Tartuffe, donc à partir de demain, salle Richelieu. Il reste des places, il me semble que pour les précieuses ridicules au Vieux Colombier, c'est déjà très compliqué, mais on peut aller voir. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles Molière jusqu'à l'été à la Comédie Française. Et donc, le Tartuffe, il est retransmis dans plus de 200 cinémas pâtés demain à 20h10. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Et une de vos compagnes de la Comédie Française, tout de suite avec Frédéric Pommier.
France Inter, le 13-14.
C'est dans... une minute d'abord. Le vif de l'histoire, annoncez-nous le programme Jean Lebrun.
Eh bien, Léon Blum, pas celui du Front Populaire, hein, Intelligence Service, on consacre un numéro demain à Blum, c'est pas qu'on croit à l'Union de la Gauche.
Et puis, c'est dans 10 minutes. Et puis, le feuilleton, ce sera toujours avec Zaya Ziwani, la chef d'orchestre. Et on y vient tout de suite à Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Et c'est avec une autre actrice de la Comédie Française que vous parlez chanson aujourd'hui, en cette veille donc de 400e anniversaire de la naissance de Molière. Elle en a d'ailleurs reçu 4 des Molières et 4 Césars aussi. C'est Dominique Blanc.
Et c'est un tube de 1979 qu'elle a choisi de nous faire écouter, Dominique Blanc. Une chanson qu'elle adore, un chanteur qu'elle adore. C'est « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Quand ce titre est sorti, Dominique Blanc venait d'entrer au cours Florent.
J'étais jeune apprentie comédienne, folle amoureuse de mon professeur qui était à l'époque Pierre Roman. On était tous amoureux et amoureuses de ce Pierre Roman. Et quand j'ai entendu cette chanson, ça a été un coup de foudre immédiat. Et je la chantais dans les couloirs du cours Florent. Je la chantais à tue-tête en espérant que Pierre Roman comprenne mon amour fou. Et absolu, il n'a jamais compris.
Cette histoire n'a pas été plus loin.
Non, cette histoire n'a jamais démarré, je ne comprends pas pourquoi. Mais cette chanson, je peux vous dire que je la chantais à plein poumon, en espérant que le message passe.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir.
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira.
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres. Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
Alors moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Parce que j'avais l'impression tout d'un coup que ça me rendait totalement invincible. Je suis aussi une grande romantique. Et donc, j'étais en gros... capable de tout, puisque j'avais fait toutes ces guerres-là. Voilà. Donc, je ne comprenais pas pourquoi Pierre Roman ne réagissait pas.
Je l'aime à mourir, cette chanson est parue sur l'album Les Chemins de Traverse, Frédéric.
Le deuxième album de Francis Cabrel, qui en était donc encore à ses débuts, tout comme la très romantique Dominique Blanc.
C'était une année merveilleuse, c'était l'année de la classe libre. On avait également Francis Huster comme professeur, toujours chez Florent. Et on était 25, je crois. On débutait tous, en fait. Hein. Donc on avait des rêves plein la tête et on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver.
Ça veut dire que cette chanson, elle reste associée à ses rêves de jeunesse également?
Ah oui, oui. Oui, oui. Puis à cette année d'apprentissage où, en fait, on avait un appétit de tout. Un appétit des textes, des partenaires, de la reconnaissance... un appétit de spectacle, un appétit d'apprendre, voilà.
Je l'aime à mourir.
Pensez-vous qu'on peut aimer à en mourir?
Oh oui, bien sûr qu'on peut mourir d'aimer, ça j'en suis persuadée, mais oui. Je suis une très grande sentimentale et une grande amoureuse.
Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie.
C'est une chanson que vous auriez aimé qu'on vous chante?
Ah oui, j'aurais adoré ça. Mais j'aimerais même beaucoup passer une soirée avec Francis Cabrel au Coin du Feu, où il la chanterait rien que pour moi, vous voyez.
C'est une demande?
Ah mais oui, c'est un vœu que je fais pour 2022, pourvu qu'il l'entende.
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.
Le message est passé à Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. C'était donc Frédéric, le choix de la comédienne Dominique Blanc.
Dominique Blanc, qui sera dans la distribution de la pièce Le Tartuffe ou l'Hypocrite de Molière, donnée à partir de demain à la Comédie Française.
Bon week-end.
À lundi.
Dans le feuilleton, notre dernier rendez-vous avec Zaya Ziwani, femme, chef d'orchestre dans un milieu classique très masculin. Enfance, adolescence à Pantin, Seine-Saint-Denis, à 20 ans, elle y a créé son propre orchestre, Divertimento. Le parcours de Zaya Ziwani, c'est celui d'une ambition qu'aucun obstacle n'arrête. Est-ce qu'elle se considère comme un symbole? C'est la question que lui pose Amélie Perrier pour commencer ce cinquième épisode. Amélie qui lance donc les débats.
Je voudrais savoir si vous vous voyez comme un symbole aujourd'hui de réussite.
Un symbole, je ne sais pas. Un message d'espoir, je l'espère en tout cas. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est de montrer que les choses sont possibles. Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'ai détesté qu'on me dise « c'est pas fait pour toi, tu vas pas y arriver », d'être dans l'incertitude, dans le doute, parce que justement, je voyais pas de femme, je voyais pas de personne qui avait mon parcours, mon profil. Donc aujourd'hui, moi, je trouve qu'une jeune fille puisse voir Zaya Ziwani chef d'orchestre, ou une autre femme chef d'orchestre, ou même dans l'orchestre Divertimento, voir des femmes aux pupitres de percussion, dans les cuivres, violon solo, violoncelle solo... Pour moi, c'est quelque chose d'important de rendre visible, même dans l'implication dans notre académie. Je passe beaucoup de temps aussi dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, pour justement dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles que tout est possible et que quand on travaille, on a toujours des résultats.
Quand j'ai rencontré votre sœur Fetouma lors d'une répétition de Divertimento, elle est au violoncelle, hein, dans l'orchestre, et que je lui ai parlé du 93, j'ai senti que ça l'énervait un peu qu'on vous ramène toujours à ça.
Non, moi j'en suis même très fière. Après, ce que je veux pas, c'est qu'on me ramène que à ça. Encore un peu aujourd'hui, et souvent même avant, j'avais été un peu prisonnière de cette image. Et je sais que voilà, Fetouma, comme beaucoup d'autres musiciens de l'orchestre, sont aussi attachés à ce qu'on voit ce travail-là comme au contraire un beau travail artistique, de grande qualité et pas simplement comme un engagement social, parce que souvent malheureusement il est vu que sous cette forme-là. S'il vous plaît, j'entends du bruit là, j'aime pas ça. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, juste on fait attention, il y a une belle énergie, mais que dans les crescendo, on fasse attention de pas accélérer. Et n'hésite pas un tout petit peu plus, Cédric, à ton entrée, tu peux jouer un petit peu plus, s'il te plaît.
Vous avez été remarqué par des politiques quand même, notamment François Hollande, ancien président. Je crois qu'il a reversé ses droits d'auteur d'un livre pour Divertimento. Vous avez été invité à l'Élysée aussi par Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois d'être leur caution?
Non, non, après, parce que moi je suis très à l'aise avec ça. Après, je suis très attentive à séparer mes idées politiques de mon engagement d'artiste. Moi, je travaille dans des territoires, dans des collectivités très différentes, avec aussi des élus qui appartiennent à des étiquettes politiques très différentes également, qui aujourd'hui n'a pas envie que les enfants réussissent, que les enfants aient accès au bout, à ce qui est de plus exigeant, à l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture.
Et puis, vous allez devenir l'année prochaine l'héroïne d'un film, Divertimento, qui va parler de votre parcours.
Bah, écoutez, oui, alors c'est vrai que parfois, moi je suis un peu la tête dans le guidon, où je m'arrête pas assez pour retourner la tête et me dire, tiens, j'ai quand même réalisé tout ça, on a parcouru tous ensemble avec ma sœur, avec les musiciens, tout ce chemin, et... C'est vrai que ce projet de film, c'est aussi une façon quelque part de se poser, de se dire ah oui, en effet, il y a eu tout ça. Et quand cet été, on a eu l'occasion en effet de participer au tournage du film, d'y assister, d'y contribuer également, de voir des scènes qu'on a déjà vécues il y a 20 ans, de les revoir, d'assister en fait quasiment sous nos yeux à notre vie, ça a été quelque chose de très frappant, de très émouvant surtout. Et plus encore que simplement notre histoire, ce que je trouve beau dans ce film, c'est que c'est un film qui va parler de musique, de jeunes qui réussissent. De jeunes qui réussissent aussi dans des quartiers populaires. Et parfois, dans le cinéma, c'est pas toujours ce visage-là que l'on voit.
Et c'est Oulaya Amamra qui interprète votre rôle, c'est ça ?
Exactement, elle a beaucoup de sensibilité musicale. Et donc, du coup, j'ai dû la former à diriger l'orchestre, à comprendre la musique, à adapter aussi la gestique. Et ça restera pour moi aussi une très belle rencontre dans mon parcours.
Une semaine avec Zaya Ziwani grâce à Amélie Perrier et la réalisation de Lucie Lemarchand. Une semaine dans leur vie. Vous retrouvez l'intégralité du feuilleton sur franceinter.fr et les bonnes plateformes de podcast.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Vous consacrez votre émission Intelligence Service à Léon Blum demain. L'époque, 1936, où il présidait le gouvernement de Front Populaire, paraît bien lointaine à bien des égards, mais... Les épreuves qu'il va traverser ensuite et au long de la guerre nous le rendent beaucoup plus proche.
Oui, chemin 36 a évidemment marqué les mémoires, mais Blum, lui, n'a cessé de répéter que son gouvernement de Front Populaire ne cherchait pas à passer du capitalisme au socialisme, qu'il voulait d'abord faire barrage par l'unité des gauches au fascisme qui montait partout en Europe. En la matière, il a échoué. Commença pour lui l'isolement. L'extrême droite le maudissait comme juif. Maurras, le chef royaliste de l'Action française, recommandait de le fusiller dans le dos. Les communistes, qui répudiaient maintenant la stratégie de Front populaire et allaient bientôt approuver le pacte germano-soviétique, le considéraient comme un traître. Et beaucoup de socialistes eux-mêmes l'abandonnaient, choisissant un pacifisme à tout craint qui allait souvent les mener jusqu'à la collaboration. Blum passa la guerre dans les forteresses de Pétain, puis dans une maison du camp de Buchenwald. Un autre que lui aurait désespéré, il remarquait simplement qu'après l'expérience du lynchage, ne pouvait lui manquer celle de la prison. Et il écrit dans ces circonstances un grand livre à l'échelle humaine. Il y cite Lamennais « Si nous ne savons pas dire « mourons », nous ne savons pas vivre. » Ce Blum-là, ce Blum de la gauche morale, nous parle de très près.
À son retour quasi miraculeux en 1945, il s'installe à Jouy-en-Josas, dans une maison où il vivra jusqu'à sa mort en 1950. C'est là que vous avez enregistré Intelligence Service.
Ses ennemis avaient fait croire qu'il mangeait dans une vaisselle d'or. Les Allemands avaient embarqué ses meubles, ses papiers, ses livres. Il n'avait plus rien. Et la maison de Jouy appartenait à sa femme, Jeanne. Ouverte au public, elle est restée telle qu'elle. Peu de meubles, beaucoup de livres, une bibliothèque reconstituée après le désastre, qui témoignait d'un grand éclectisme, avec même des livres de ses pires adversaires. Et le seul luxe, c'était un jardin plein sud accroché au coteau. La petite histoire dit que Jeanne Blum allait parfois en vendre les pommes sur le marché de Jouy.
Vous parliez à l'instant de gauche morale, cette expression n'a pas bonne presse aujourd'hui. On reproche à cette gauche de faire la morale sans être exemplaire.
Eh bien, Blum mettait la morale au centre. Pour lui, ce qui était déterminant, c'était la position que chaque classe sociale occupait dans une économie de production. La bourgeoisie en avait tiré une morale, respectable, fondée sur l'épargne, l'honnêteté dans les échanges, l'investissement à long terme, et c'est cette exactitude qui lui avait fait mériter un long moment son pouvoir. Ensuite, ce que Blum appelait le grand capitalisme avait corrompu la bourgeoisie. En 1945, il pensait que le pouvoir devait échoir au prolétariat. Pendant la résistance, celui-ci avait joué un rôle déterminant et au nom de l'exploitation qu'il avait subie, il avait su développer des facultés incomparables, la solidarité, le mutualisme, l'éducation des enfants, etc. Le tour du prolétariat n'est jamais venu. Il semble que le socialisme avec un grand S n'est plus de saison. Mais l'exigence personnelle de Blum l'est plus que jamais et elle sonne comme un avertissement à qui se dit encore de gauche. Il n'est de vie socialiste que complète, fondée en somme sur une idée simple, est de gauche qui croit que ce qui nous rapproche des autres est plus important que ce qui nous en distingue. C'est la leçon du vieux Sachem, si simple, de Jouy en Josas, dont la fin fut entourée de funérailles nationales, avec des gardes républicains, sabres au clair, drapeau tricolore, et des mineurs du Nord, avec leurs lampes de fond, drapeau rouge.
Léon Blum, au cœur d'Intelligence Service, ce sera demain à 18h. Merci Jean Lebrun, et on retrouve Mathieu Vidard et La Terre au Carré, le club. Je vous embrasse tout de suite, Mathieu. On vous retrouve tout de suite, on est très en retard.
Eh ben, avec plaisir.
Voilà.